Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Le sponsor de cet épisode des Couilles sur la table, c'est ADA Tech School, une formation pour devenir développeuse et développeur à la pédagogie alternative qui casse les codes et incite les femmes à coder. Et c'est important car les femmes sont encore largement sous-représentées dans le monde de la tech. ADA Tech School offre une formation unique de 21 mois, dont 12 en alternance, sans prérequis techniques ni académiques. Alors si vous souhaitez vous reconvertir dans un secteur très porteur, ADA Tech School vous attend. L'école est implantée à Paris, Lyon et Nantes. Il y a 3 rentrées par an et la prochaine est le 27 mai. On nous dit qu'il reste quelques places. Ça vous intéresse ? Vous pouvez postuler dès maintenant ou vous renseigner sur le site adatechschool.fr. ADA, A-D-A, Tech et School. Et en attendant, bon épisode.
Les couilles sur la table, édition spéciale. Bonjour chers auditeuristes, voici un épisode surprise des couilles sur la table, directement en lien avec l'actualité. Je me passionne pour ce qui se passe en ce moment en France, pour les gilets jaunes. Et je me suis demandé ce qu'on pouvait comprendre des violences qui marquent ce mouvement, donc des destructions matérielles bien sûr, mais aussi de la violence d'État, de la violence policière, de la violence sociale, en l'examinant par le prisme du genre et des masculinités. Je suis avec mon confrère, le journaliste Thomas Rozek, qui présente la nouvelle émission d'actualité quotidienne de Binge Audio, Programme B. D'ailleurs, abonnez-vous. Salut Thomas.
Salut Victoire.
Nous sommes allés ensemble interroger la philosophe Elsa Dorlin, professeure à l'université Paris 8, autrice de « Se défendre, une philosophie de la violence » parue aux éditions de La Découverte. Elsa Dorlin fait partie de ces intellectuels qui prennent en compte les concepts de classe, de genre et de race, ce qui nous semble, à Binge Audio, indispensable pour comprendre notre société. Et pour commencer, nous lui avons demandé pourquoi, alors que chez les gilets jaunes, les femmes sont très présentes, ceux qui commettent les violences, au regard du profil des personnes interpellées, sont en grande majorité des hommes.
C'est évident qu'il y a une part de socialisation, c'est-à-dire de l'idée que dans la socialisation, en tant que justement garçon ou homme, il y a une forme de d'autorisation beaucoup plus grande à l'usage de la violence, et même tout simplement à l'usage du corps, en fait.
Voilà, ouais,
donc c'est un peu différent, c'est-à-dire que sans même parler de la violence, une socialisation genrée, c'est précisément, elle va marquer une distinction entre un corps déployé, tout simplement dans une cour d'école, les garçons vont être beaucoup plus encouragés, autorisés à jouer au foot, et du coup prennent tout l'espace. Mm-hmm. Mais c'est aussi une expérience qui est intéressante, c'est-à-dire que ils font l'expérience de leur corps déployé. Voilà, courir, prendre l'espace, leur espace vital est beaucoup plus large, etc. Alors que les jeux des filles, par exemple, qui sont du coup un peu cantonnés sur les côtés de la cour, vont être des jeux beaucoup plus immobiles, statiques, avec un corps plus rentré. Donc en fait, la violence, être familiarisé à la violence, ça commence par là. C'est tout simplement faire l'expérience de ses propres capacités d'agir, de sa puissance corporelle. Et ça se joue par des choses qui sont vraiment, sans parler de casse, mais qui sont dès le départ sur la façon dont on autorise un corps à occuper un espace ou pas. Et puis, peut-être qu'il y a aussi un point, je dirais, pragmatique. C'est-à-dire que quand on est sur une mobilisation, sur une occupation, sur un barrage, en manifestation, il y a aussi toute cette idée de la charge mentale, hein, dont on a beaucoup parlé ces dernières années. C'est l'idée, peut-être, qu'à un moment donné, quand on voit que ça commence à chauffer ou que la répression policière est en train de passer à un niveau supérieur, eh bien, à un moment donné, on se dit « Ok, moi, il faut que j'aille chercher mes gosses, que je fasse attention, que je ramène mes gosses en arrière pour les protéger. » Et ça, c'est majoritairement un souci féminin, du fait aussi d'une socialisation féminine.
Donc, on a souci des autres du care, d'être socialisé, à s'occuper des autres.
C'est pas forcément le souci des autres, mais c'est tout simplement le souci des personnes qui dépendent de moi, en fait. Mmh. Donc, c'est même sans parler, vraiment sans entrer dans des grandes... grande théorie, je pense qu'il y a vraiment une idée, se ramener à un niveau très, très concret, en fait, très prosaïque.
Mais dans la série très prosaïque, justement, ça, moi, ça me frappe ce que vous avez dit sur le corps et le fait de déployer son corps, parce que je me disais, à voir ces gens détruire des trucs, je me disais, mais j'ai l'impression que moi, physiquement, je n'en serais pas capable. Mais comme femme, pas parce que je ne serais pas musclée ou je ne sais pas quoi, mais juste parce que ce truc de prendre de la place, de lancer des choses et tout, j'ai l'impression que je n'ai pas eu d'entraînement du tout à ça, en fait.
Bah oui, ça,
vu que j'étais socialisée comme
exactement.
Une fille.
Exactement, mais ça s'appelle la discipline des corps, c'est-à-dire que le corps est une matière particulièrement efficace pour discipliner en fait les esprits et la façon dont je me représente comme étant autorisée à faire ceci ou légitime à accomplir cet acte, etc. Et parler fort, crier, taper du poing sur la table. Encore une fois,
lancer des trucs, casser des...
Ouais, exactement. Ouais. D'abord, il y a une question d'entraînement, c'est-à-dire que c'est des gestes auxquels il y a moins de familiarité, peut-être, en tout cas, si on veut parler globalement, parce qu'après, il faudrait vraiment...
Il y a toujours des exceptions, voilà, et tout, et tout.
Mais plus
il y a
que des exceptions, en fait, parce qu'il suffit de décaler les choses, c'est-à-dire dans certaines situations... en fait, on fait l'expérience, les femmes, je veux dire, en tout cas les corps socialisés comme femmes, font l'expérience d'une puissance. Mais peut-être dans des choses qui sont moins considérées comme leur permettant après d'agir. Porter quelque chose de lourd, enfin lancer quelque chose, ça veut dire juste qu'on est capable de porter quelque chose. D'accord. Après, c'est le geste de lancer. Mmh. Mais porter des courses, pousser une poussette, avoir un enfant, porte-bébé, peu importe.
Oui, c'est des expériences de puissance physique.
C'est des expériences, en fait, qui mobilisent une puissance physique, mais qui ne sont pas codées comme une expérience de puissance physique. C'est-à-dire que c'est un entraînement du corps, porter, tirer, je veux dire. Ça rend le corps très fort, mais c'est pas encodé comme me permettant, comme me donnant à moi-même un sentiment de puissance. C'est au contraire encodé comme étant extrêmement contraignant, comme étant fatigant, etc.
Alors
que par exemple, si je prends un métier par exemple masculin, très physique, on va dire voilà, je peut-être un ouvrier du bâtiment, etc. C'est un entraînement physique, c'est très éprouvant, mais en même temps, c'est une forme de puissance corporelle. Mais on va avoir une représentation, un encodage social qui va faire, c'est un corps fort, puissant, et puis ça va nous amener jusqu'au pub de Coca-Cola avec l'ouvrier qui ouvre sa canette et qui fait baver toutes les filles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est encodé comme de la puissance corporelle. Plein d'autres expériences, en fait, sont... ont un sens qui fait au contraire c'est le poids du monde qui est sur mes épaules. Et ça, c'est une forme de discipline, en fait. C'est une discipline et des corps et des esprits. Et à la fin, on se retrouve avec un sentiment d'impuissance. C'est-à-dire avec...
Ou un sentiment de puissance, j'imagine, de la part de ces hommes qui arrivent qui
exactement.
Cassent des trucs et tout. Enfin, voilà, là, il y a eu des vitrines de banques cassées, Dior, des tags sur l'arc de triomphe, même le fait d'attaquer des policiers et tout, c'est...
Oui, mais ça, alors, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que d'un côté, on a du coup un sentiment de puissance, de l'autre côté, dans d'autres expériences qui ne sont pas, pensées comme ça, c'est au contraire un sentiment d'impuissance qui est complètement incorporé. Et donc, on n'arrive pas ensuite... à traduire cette expérience, cet exercice de soi sur j'ai le droit de me mettre en colère, j'ai le droit de prendre un pavé et fracasser la vitrine d'un fast-food. Après, il y a autre chose qui se passe aussi, c'est que on parle de pulsions scopiques, d'attirance là, un peu malsaine, fascinée pour les scènes de violence et qui vont être on a cassé, c'est très violent, d'ailleurs
il y a du feu,
donc c'est des scènes presque de révolte, mais je pense vraiment que c'est aussi lié à une époque, à une situation où tout passe par le prisme, en fait, visiblement, enfin du visible, de la visibilité, en fait.
Qu'est-ce que vous pensez de l'hypothèse selon laquelle il y a des hommes qui ont été socialisés à mieux déployer leur corps et à faire l'expérience de leur puissance, et que ça c'est valorisé aussi chez eux, alors qu'une femme qui détruirait des choses, qui casse des choses et tout, c'est stigmatisé et on la range dans la catégorie des folles ou de... en tout cas c'est vraiment très très mal vu, en fait, de faire preuve de violence quand on est une femme.
Alors c'est clair qu'une femme qui use de violence... ou qui passe à la violence, elle est pathologisée. C'est ça. Donc c'est vraiment toute la problématique. C'est une hystérique, elle est folle, etc. Donc c'est la pathologisation. Et du coup, ce qui fait comprendre que toutes les femmes qui se sont exprimées dans une expression qui était qualifiée de violente sont des exceptions. Et la plupart, d'ailleurs, ont été pathologisées, mais pas seulement dans les discours. C'est-à-dire, si je pense à une grande révolutionnaire au moment de la Révolution française qui appelait à porter les armes, à créer des bataillons de femmes et qui s'appelle Thérouanne de Méricourt, elle a fini à l'asile. C'est-à-dire, elle a été internée de force.
Et elle a été oblitérée de l'histoire.
Exactement, et oubliée de l'histoire. Donc, je veux dire, quand on parle de la pathologisation, ça va loin. Du coup, le tranchant, si vous voulez, il va passer plus par la médicalisation de ces femmes, l'encadrement, la surveillance, etc., la surveillance médicale. En revanche, du côté des hommes, alors, il y a une plus grande acceptation. Mais dans le contexte actuel, si on reprend encore l'exemple des Gilets jaunes, là, il y a un enjeu viril. L'enjeu viril, c'est que précisément parce que les Gilets jaunes, on va dire, encore une fois, c'est probablement, ça mériterait beaucoup plus de subtilité, mais on va dire que c'est plutôt les classes populaires qui sont en train d'être dans la rue et de contester, d'ailleurs, sur des revendications de survie, quoi, de vie, de pas finir les fins de mois. Là, les hommes, comme c'est plutôt des hommes des classes populaires, sans représentation, sans médiation, eh bien, il y a un enjeu viril, une sorte de bras de fer entre la présidence Macron et son gouvernement qui veulent convaincre que l'État reste fort, que l'État ne pliera pas, que l'État ne cédera pas. Et en fait, c'est là où la perversion de la chose. C'est que si on... En fait, ils pensent que s'ils écoutaient les revendications qui sont légitimes et dont ils ont le devoir, d'écouter. S'ils écoutaient ces revendications et s'ils instauraient une politique, de protection des plus démunis, quoi, tout simplement, au lieu d'être une politique pour les riches, eh bien, ce serait une façon de faiblir, une façon presque efféminée. Vous voyez, on serait pas un État courageux, on serait un peu des femmelettes, quoi, parce qu'on aurait cédé, Donc, du coup, la répression, elle est ultra violente sur les Gilets jaunes, comme elle a été ultra violente, par exemple, dans les quartiers populaires, et qu'elle reste ultra violente dans les quartiers populaires, parce qu'il y a un...
Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oseamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.
L'enjeu viriliste, non pas du côté de ceux qui revendiquent, mais du côté d'un État qui rabat la question d'un État fort sur un État viriliste, sourd, violent et matraqueur, quoi, vraiment. Et avec l'idée selon laquelle quand un État de droit, c'est un État qui ne plie pas. Mais alors, c'est un État de droit pour qui, en fait ? On parle de quoi ? C'est-à-dire des droits de qui, de pour qui, etc. Donc l'enjeu viriliste, il est plutôt sur la représentation d'un État qui est un État, encore une fois, sécuritaire, et lui qui est traversé de façon, consubstantielle par une idéologie de genre.
Et justement, moi j'avais une question là-dessus, on en revient à cette histoire d'image. Est-ce que le fait de se réfugier médiatiquement dans l'image de la violence concrète, c'est aussi une manière d'occulter ou d'oblitérer la vraie source de la colère, qui est la violence sociale, mais qui est une violence que par essence on ne voit pas ?
Alors, d'une part, il y a complètement une focale, c'est clair, c'est-à-dire que... Et puis avec un discours derrière, donc l'extrême violence, des guerres de fin du monde, des images de fin du monde, c'est des images de guerre, etc. Et focaliser sur, par exemple, la destruction de certaines statues de l'Arc de Triomphe, de magasins, de voitures, et qui vont être choquantes moralement, en fait, qui ont pour fonction de choquer moralement, en fait, les personnes qui sont témoins de ces images. Mais d'abord, ça veut dire que d'une part, on ne montre que certaines images. Et là, il y a un choix de dire, on pourrait montrer beaucoup d'images de violence, en fait. Beaucoup d'images, y compris de femmes ultra-violentes qui sont en colère, qui se défendent, qui sont pas d'accord. Donc, là, on est sur ce mouvement-là. On montre des hommes ultra-violents sur des biens. On qualifie ça d'extrême violence. Mais de la même façon, on pourrait considérer que quand on voit de façon assez furtive, mais quand même, on a vu les images de snipers sur les toits, de Robocop, qui lancent des flashballs dans la tête des individus qui sont juste en train d'exprimer un droit fondamental qui est le droit de manifester. Ils prennent la responsabilité de détruire des biens, mais il n'y a pas atteinte aux personnes. Mmh. Donc, je veux dire, il y a vraiment une forme, oui, de créer une sorte de... à la fois de fascination, parce que ces images passent en boucle, et en même temps, on suscite une sorte de désapprobation morale. Mais à chaque fois, il faut se poser la question, une désapprobation morale, c'est une façon aussi de substituer à une réflexion politique une forme de stupeur moralisante en disant « Ah, c'est pas bien ». Mais en fait, oui, bien sûr, c'est pas bien. Mais quand on n'est pas content, il y a des conséquences. Encore une fois, il n'y a pas d'atteinte aux personnes. Et je veux dire, même, il y a une forme de sagesse commune, une conscience commune. On le sait, même quand on est enfant, je sais pas, ma grand-mère, ma mère, peu importe, si j'étais en colère, je cassais un objet... Voilà, elle n'était pas contente, mais à la fin, elle me disait « Ok, c'est pas grave, tu t'es pas blessée. » Bah là, c'est pareil, en fait. C'est pas grave.
Il y a une histoire de légitimité aussi, j'ai l'impression, parce qu'on a le sentiment, je sais que vous avez travaillé sur ces questions-là, notamment à l'époque des émeutes de banlieue en 2005, qui a une forme, on va dire, socialement pas acceptée de violence, considérée comme illégitime, qui serait la violence, justement, dans la rue, l'expression de la colère. Et encore une fois, j'en reviens à mon histoire de violence sociale qui là est quasiment légitimée, en tout cas elle n'est pas vue, donc est presque légitime.
C'est aussi l'idée que tout à l'heure on parlait de discipline des corps, mais il y a aussi une discipline des formes d'expression des formes d'expression sociale et des formes de contestation sociale. Il y a aussi une discipline de ces formes. On le sait parce que beaucoup d'historiens et d'historiennes ont travaillé, par exemple, sur l'histoire de la manifestation et sur l'idée que des formes de contestation, tout au long du XXe siècle, en tout cas à partir des années 30, se sont euphémisées. C'est-à-dire qu'ensuite, toute contestation devait se cadrer dans des manifestations encadrées, avec un parcours délimité, etc. Quand vous arrivez dans une situation sociale et politique où, quel que soit le nombre de personnes qu'il y a dans la rue, quel que soit, si vous voulez, l'ampleur d'un mouvement, dans les cadres, dans les formes, gentiment, qui défilent, qui parlent, qui revendiquent, c'est-à-dire qui énoncent un discours de revendication, et qu'en face, vous avez des représentants politiques qui sont élus de la République, donc qui ne tiennent leur légitimité que du peuple, considère que, quel que soit le nombre, quelles que soient les revendications, la réforme passera. Parce que c'est bien pour le peuple. Donc on fait votre bien malgré vous, quoi. Mais ça, c'est une... Vous infantilisez complètement. Vous méprisez, en fait, le peuple de citoyens. Et donc, forcément, on arrive à un cran supérieur où, à un moment donné, on va sortir du cadre, on va sortir de cette discipline, on va s'en sauvager dans une certaine mesure. Et ça, c'est la réponse du déni, de la non-prise en considération de la situation, des conditions matérielles aussi de ce peuple. Et il y a vraiment, je veux dire, une critique aujourd'hui. Il y a presque une indécence du côté des professionnels de la politique, à continuer à critiquer, je veux dire, l'extrême violence et ne pas considérer que c'est politique. Et ça, c'est pour ça que c'est exactement le parallèle avec, non pas les émeutes, mais justement les révoltes des quartiers populaires en 2005, parce que le point, ça a été, dès que vous sortez des cadres dans lesquels il convient de vous exprimer, et alors même qu'on sait très bien qu'on ne va pas vous écouter...
Vous écoutez, oui.
Dès que vous sortez des cadres, alors vous êtes en dehors du politique. Oui. Donc vous êtes délégitimé comme citoyen, et on considère que c'est barbare, que c'est sauvage, que c'est irrationnel, que c'est extrêmement violent, que ça ne veut rien dire au fond, que ça ne fait pas sens. Mmh. Mais évidemment que ça fait sens. Et donc en 2005, par exemple, le point qui a été le plus saillant dans la prise en considération, l'analyse des révoltes de 2005, ça a été de dire c'est pas politique, regardez, ils vont brûler leurs bibliothèques et leurs écoles. Mais c'est éminemment politique, justement. Et donc, dénier à un individu le fait que c'est un sujet à part entière, c'est-à-dire digne de s'exprimer dans les formes qu'il choisit et digne d'être entendu par les personnes qu'il a mis au pouvoir, ben, ça, c'est une violence extrême, en fait. Elle est là, la violence. Mmh. Elle n'est pas dans le fait de casser des magasins de luxe ou de renverser des tables à des terrasses. La violence extrême, elle est ici, c'est-à-dire dans le déni absolu du fait que des personnes qui sont au pouvoir et qui ont été mises au pouvoir par le peuple sont complètement dans une indifférence absolue aux conditions matérielles dans lesquelles ils mettent eux-mêmes leur population.
Il y a aussi l'idée peut-être de ne pas avoir envie de négocier, en fait, de ne pas avoir envie de demander, de ne pas réclamer justement poliment, gentiment, d'être entendu, mais d'aller directement au combat. Ça fait écho à quelque chose dont vous parlez dans votre livre, qui est le combat des suffragistes anglaises au début du XXe siècle, qui justement dans leur démarche avaient l'idée de ne pas demander parce qu'on ne les écoute pas.
Oui, mais ça, alors là, c'est toute la question de la représentation politique. Et du coup, on parle beaucoup en ce moment, d'ailleurs, de la disparition, au fond, des corps intermédiaires, oui, qui font le lien entre, on va dire, si je reprends encore cette catégorie, entre le peuple et les représentants élus ou l'État, et qui sont les syndicats, etc., les partis. Bon, là encore, j'utilise cette distinction parce qu'elle est utile. Mais au fond, c'est un peu toujours considéré que le peuple est toujours immature pour s'exprimer directement lui-même, en fait. Donc la représentation, de toute façon, elle a une sorte de biais de départ. C'est-à-dire qu'on considère qu'il faut retraduire toujours, il faut que ce soit des personnes qualifiées qui retraduisent les besoins du peuple et détermine les principes généraux pour qu'une société soit bien ordonnée. À un moment donné, on peut aussi avoir une autre perspective politique et considérer que non, la représentation, c'est une arnaque, en fait. Que la représentation est une forme de trahison, par essence. Donc, que l'expression directe, c'est aussi peut-être la seule action véritablement politique. Et les suffragistes, au début du XXe siècle en Angleterre, parce qu'elles étaient aussi dans une perspective internationaliste, anarchiste, etc., considéraient qu'on ne peut pas passer par les représentants élus pour demander le droit de vote, par exemple, des femmes, parce que c'est précisément ces représentants élus au Parlement, qui sont par définition que des hommes, qui dénient ce droit de vote depuis des décennies. À chaque fois qu'une proposition pour le droit de vote des femmes était présentée, elle était renvoyée, exactement comme en France. Donc c'est un problème de la représentation. Et plus fondamentalement encore, elles ont énoncé l'idée qu'on ne peut pas demander à l'État de nous protéger ou de nous aider ou d'améliorer nos conditions de vie, alors même que c'est précisément cet État qui est directement responsable des discriminations qui pèsent sur nous, de la non-protection dont on fait l'objet, etc., etc. Donc, au fond, elles ont considéré que l'État, étant un État patriarcal et bourgeois, on n'allait pas lui demander gentiment si on pouvait avoir des droits, mais elles ont pris la rue et elles ont revendiqué directement en imposant un rapport de force. Et le rapport de force, il ne s'impose pas en demandant gentiment « Est-ce que c'est possible, s'il vous plaît ?» Parce que de toute façon, ça ne marche pas. Mais il s'impose précisément en créant une pression. Et la pression, eh bien, là, on le voit par exemple avec les Gilets jaunes. Hein, ils exprimaient très clairement le fait que si on fait perdre de l'argent aux grands centres commerciaux à la veille de Noël, eh bien, peut-être ça forcera l'écoute des gouvernants.
Merci à Elsa Dorlin pour ses réponses et merci Thomas. Pour un regard différent sur l'actualité, je vous conseille de vous abonner à Programme B, le nouveau podcast de Binge Audio que vous retrouverez tous les après-midi sur toutes les applications de podcast et sur YouTube, Spotify et Deezer. C'était une édition spéciale des Couilles sur la table, préparée par Lauren Bess et réalisée par Quentin Bresson et Vincent Hiver. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Vous pouvez m'écrire sur Twitter, Facebook, Instagram et par courriel à lescouillessurlatable@binge.audio. Merci, à bientôt.
Binge.